La motte Langon, souvenir d'un fantôme, le vampire et la police. Un jour où l'empereur m'avait retenu plus longtemps qu'à l'ordinaire, le ministre de la police, duc d'Otrante, fit demander une audience prompte. « Voyons ce qu'il veut, » dit Napoléon. « Prince, restez, j'aime assez avoir un témoin de ses œuvres. » L'auteur commençait à se méfier de lui. Fouché entra, il parla d'abord de police générale, puis il dit « Un fait bien étrange se passe dans la rue Saint-Éloi, hôtel Pépin. Il est arrivé là un individu, il y a 12 jours, nommé Raffin. Ses papiers remis au propriétaire ont paru suspects. On a environné cet homme d'une surveillance spéciale. » Le jour, il va dans diverses maisons, il est très bien mis, sa figure est agréable, bien que sévère. Le soir, il sort de l'hôtel à 11 heures précises, prend souvent un fiacre, d'autres fois va à pied, toujours vers le même lieu, le cimetière du Père Lachaise. Et chaque fois qu'il y arrive, mes agents le perdent de vue. Mais à 4 heures du matin, on l'aperçoit aux environs de ce cimetière. Il reprend alors le chemin de l'hôtel Pépin, où il arrive avant le jour. Ce manège répété a excité la surprise de mes hommes. On suit Raffin presque pas à pas, on le peut. C'est facile pendant le trajet, mais on s'approche du cimetière. Le moment arrive toujours où on le perd de vue. On a posté du monde dans l'intérieur, et ceux-là n'ont rien découvert. Vous me racontez là, duc d'Otrante, une anecdote fantasmagorique, prépare-t-il l'empereur. Est-ce un vampire? Sire, ils sont rares en France au XIXe siècle. Qu'est-ce donc? Moi, c'est ce que je saurais. Le ferez-vous arrêter? Bon, il ne commet rien de répréhensible et j'hésite. Vous faites bien. Il est assez fâcheux qu'il faille remplir les prisons d'État d'insensés qui prennent plaisir à courir à leur perte. Je n'approuve point les mesures préventives. La tyrannie est là, car avec ce système, où s'arrêtera-t-on? Cependant, ce monsieur m'intrigue. A-t-on fouillé ses papiers pendant son absence? Oui, sire, on n'a rien trouvé de louche. Vous dites que son passeport l'est. Il ne se rapporte pas exactement pour le signalement. On a même cru y reconnaître une surcharge. Moi, alors, prenant la parole, je dis, ce sera peut-être un apprenti carabin. C'est possible, répliqua le duc d'Otrante, du ton d'un homme qui a une toute autre idée. Ceci m'intrigua, et quelque temps après, un matin, lorsqu'il était venu me rendre compte de plusieurs affaires dont l'empereur m'avait remis la solution, le souvenir de l'homme au cimetière me revint. Et j'en demandais des nouvelles. Fouché alors. « Monseigneur, me dit-il, nous ne sommes pas au XIXe siècle, comme l'autre fois devant vous, j'affirmais à l'empereur, mais au IXe, Xe, XIe, ou plutôt, il y a des prestidigitateurs habiles. Mais qu'est-il donc devenu? La brigade de sûreté, piquée au vif, imagine de commencer la petite guerre avec Raffin. » Et une belle nuit, on l'arrête à 100 pas du Père Lachaise. D'abord, d'un coup de poing, il renverse dans la boue 2 de mes gaillards les plus solides, qui ont prétendu avoir été frappés non par une main d'homme, mais par une barre de fer. Les autres l'entourent, le somment au long de la Loire. Il se calme, exhibe à la clarté d'un réverbère des papiers convenables. Une carte civile, un passeport, acte de naissance, bref, tout ce qu'il fallait pour avoir le droit de circuler nocturnement dans la bonne ville. Et comment voulait s'y prendre par ruse, on feint d'être satisfait. Il paie à boire au retour des taloges appliquées. Et on se sépare, bons amis. Lui sort, les autres restent chez le marchand de vin, où on l'a conduit. Mais des camarades apostés en dehors le suivent, et le père n'a point nommé. À 4 heures, le signal est donné par un surveillant qui veut voir Raffin. On y court et cette fois, afin d'éviter les jeux de main, un officier de paix se montre. Et pour cacher le jeu, On arrête tous les passants, trois ou quatre amenés là par hasard. On les fouille et raffine avec eux. On retrouve sur lui les pièces de bientôt et non de rien de suspect avec. Au reste, on presse la recherche, car ceux qu'on a rangés sont, quoique peu délicats, sur le point d'être suffoqués par l'odeur infecte qui s'exhale de toute la personne de Raffin. 2 jours se passent. Lui continue à faire des visites, notamment à une jeune et jolie couturière. On s'informe de celle-ci. Elle vivait paisible, fraîche, rieuse. Et depuis que Raffin la fréquente, elle devient pâle, maigre, maladive. On va à une autre maison. Ah, ici, la femme est veuve, et elle aussi perd ses couleurs et son embonpoint. Le troisième jour, un jeune homme d'environ 24 ans arrive au portier de l'hôtel. Il est hors de lui. Il demande Raffin, qui est sorti. Cela le contrarie. Il s'assied et l'attend. Une heure après, Raffin arrive. Le jeune homme ne fait qu'un saut jusqu'à lui, le colette. La force prodigieuse de l'aventurier nocturne est comprimée par la fureur de l'assaillant, qu'il appelle assassin, monstre, et qui, sentant sa force faiblir, tire un couteau et lui porte un coup à l'aine. Mais un seul, rien qu'un. Quatre témoins l'ont vu. Retenez bien ceci, quatre témoins l'ont vu. Raffin pousse un cri, lâche son adversaire et tombe raide mort. Le meurtrier prend la course et se sauve. On ne le poursuit pas tant il est troublé. Il laisse le couteau dans la plaie. On envoie chercher un chirurgien et la police. On déshabille Raffin. Et l'on voit le sang jaillir par 6 plaies. 2 à la gorge, 2 à l'aine droite, une dans le bas-ventre et l'autre à la cuisse. Les témoins sont confondus. Leurs dépositions sont unanimes. Le jeune homme a saisi d'abord Raffin, a lutté, s'est fait une arme de son couteau, n'a porté qu'un seul coup, a laissé le fer dans la plaie. Et au lieu d'une plaie, il y en a 6. Et l'instrument représenté à la justice ne s'adapte qu'à une des seules blessures, à l'aine. Les autres paraissent avoir été faites soit par des poignards, épées, stylets, soit par tout autre outil aigu et nullement semblable à la pièce de conviction que le chirurgien, en présence d'un commissaire à lui-même, extraite du corps de Raffin. On visite ses habits, sa chambre. On ne trouve que des papiers déjà connus, mais ni or, ni argent, ni effets. Seuls les actes légaux annonçaient un citoyen de Strasbourg. Et là, on perd la trace. Les autorités locales ne peuvent rien spécifier à cause des soustractions des registres de l'état civil pendant le temps de la Révolution. On s'est mis à la recherche de l'assassin, on l'a trouvé. Eh bien, voici ce qui en était. Ce jeune homme aimait une demoiselle. Raffin se place entre eux et est préféré. Aussitôt, la pauvre fille perd la santé. Elle se plaint de cauchemars affreux, que son sang est sucé nocturnement par un être hideux qui néanmoins ressemble à Raffin. Ses confidences sont faites à la propre sœur du premier amant, qui s'en alarme. Et lorsque le matin, il a vu mourir de faiblesse le pauvre fille, son imagination s'est allumée. Il a couru provoquer Raffin. Et sachant celui-ci prêt à lui arracher la vie, tant il lui serrait la gorge, il a pris son couteau sans intention de tuer, mais seulement pour se dégager. On me soumet l'affaire, elle me paraît si bizarre que je fais relâcher le jeune homme. Surtout lorsqu'un incident plus surprenant encore complique la situation. Le corps de Raffin avait été déposé dans une salle basse. On devait l'enlever le lendemain, de grand matin. Ce moment venu, bonsoir à la compagnie, le mort a disparu. Nouvelle rumeur, qui a fait le coup? Les carabins. On fait les recherches, rien n'est trouvé. Et au bout de 10 semaines, qu'on juge de l'effroi du portier de l'hôtel Pépin et de la famille de tout le voisinage, lorsque l'on voit arriver Raffin, qui froidement réclame sa clé et ses vêtements. On l'entoure, on s'écrie, le questionne. Sa réponse est brève et simple. Des jeunes étudiants ont volé son cadavre pour le disséquer. Ils y ont surpris un reste de vie. Ils l'ont soigné, ramené du tombeau et sauvé enfin. Mais comme ils ont commis un délit, il a juré de ne pas les faire connaître. Et il subira toutes les peines possibles plutôt que d'être ingrat envers ceux qui ont rendu l'existence. Tout cela sans doute est plausible, naturel. On s'en contente. Or, moi, je donne mes ordres. Cet ordre est arrêté, conduit dans un cachot. Je m'y rends. Il était bien lié, et malgré ses cris, ses supplications, sa résistance. Je ne le balance pas à lui enfoncer dans les chairs l'instrument de chirurgie, que ne peut faire que peu de mal, mais qui provoque de l'écoulement du sang. À mon intention, qu'il devine, cet être s'abandonne à une rage violente. Il fait des efforts incroyables pour se jeter sur moi. Il me menace de l'avenir. Je le pique. Et à peine la première goutte de sang a jailli, que les 6 blessures antérieures se rouvrent. Tous les secours sont inutiles. Raffin meurt de nouveau. Nous étions 11 personnes présentes à cette expérience remarquable. Notre stupéfaction, monseigneur, ne peut être comprise. Nous sommes au XIXe siècle, et il y a devant nous un vampire, un boucolâtre, une goule, que sais-je. Ça fait incroyable, confond. Et messieurs Cuvier, Fourgoy, et Calnet, et Peyral, savants de première classe que j'avais appelés. J'avoue que, peu instruits les précédents, ils ne virent là-dedans qu'un tour de passe-passe, qu'une rouerie de police devant l'autorité, une manière neuve de se débarrasser d'un individu dangereux. Ils ont cru au poison et pas au sortilège, et le silence qu'ils gardent provient moins de leurs paroles engagées que du résultat d'une scène dont ils voudraient ne pas avoir été les spectateurs. Quant à moi, qui ai approfondi la chose, je suis abasourdi au dernier point. Certainement, je veux admettre la réalité de ces êtres surhumains. Voilà pourtant ce que j'ai vu. Je fis constater le décès. On entoura le corps mort d'une multitude de linges. On le mit dans une barrière, une bière de fer, on lui coupa la tête, les mains, les pieds, et tout cela fut enseveli ensemble. Je fus exhumé au bout d'un an. On trouva les diverses parties en putréfaction avancée, mais aucune n'y manquait. Et pour cette fois, afin de retour encore, ne vint plus redemander la clé de sa chambre. J'ajouterai que la seconde femme, la veuve, à qui il faisait la cour était déjà fort exténuée, et elle expira peu de jours après, lui.